9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial Homme de Lettres. Et Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial Effets Spéciaux. Notre invitée, c'est la comédienne Julie Debonnat. Elle a fait un stage chez nous il y a quelques mois pour préparer son rôle dans Plan B. Une partie de son rôle, nous en dire plus, sur la série fantastique qui arrive ce soir sur TF1. Et Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans Les Indispensables, un avocat très ambitieux, c'est Christophe Ondelat en personne qui va nous raconter son histoire. Et la grande messe des primeurs de Bordeaux, c'est Olivier Pouls en personne qui va déboucher les bouteilles. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes là en personne, comme Bertrand Chamerois, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille, et samedi, même si vous chantez un peu faux, vous avez regardé la finale de The Voice.
Bon, ça veut dire quoi ça? Attendez, il y a bien des mauvais coups qui regardent du porno. Hein.
Oh.
Alors, je vois pas pourquoi je pourrais pas regarder The Voice.
Elle est partie très très loin celle-là.
Ben, enfin, c'était samedi, la finale de la 10e saison de The Voice, début du prime samedi, 21h15, fin deux jours plus tard environ. Ah, c'était bien, mais c'était interminable. J'ai pris 10 piges dans la tronche. Au moment du générique de fin, il était déjà l'heure de venir vous retrouver au bureau. C'est donc Marguet qui a remporté cette 10e édition. À l'animation, le taulier Nikos Aliagas, épaulé par Karine Ferry en coulisses, qui a fait office de thermomètre pendant la soirée.
Comment est l'ambiance en coulisses?
Toujours très bonne.
Voilà, alors c'était des petits points sur l'ambiance, mais Karine n'était pas là uniquement pour donner la température de l'ambiance en coulisses. Elle incitait également les téléspectateurs à soutenir leur candidat préféré avec les traditionnels appels au vote. Karine qui anime également sur TFX des collections documentaires sur les animaux. Et on sent que ça déteint un peu sur elle, écoutez.
Et pour vous aider dans votre choix, voici un petit récap de leur prestation en
image. Elle aide les téléspectateurs à faire leur chat, c'est sympa. Je le disais, le prime était particulièrement long. Conséquence, après 6 heures à rappeler les numéros attribués aux candidats qui n'ont pas bougé de la soirée, hein, Karine a lâché la rampe.
Eh bien, pour les soutenir, c'est à vous de jouer maintenant. Alors, on va me donner les numéros. Pour Marguet, c'est le numéro 2. Et pour Jim Bower, c'est le numéro 4.
Oui, c'était les mêmes depuis le début de la soirée. Petite absence. Mais le meilleur numéro de la soirée, ce n'était ni le 2 ni le 4. Non, il était 22h53 et 21 secondes précises quand TF1 nous a offert la plus incroyable expérience de l'histoire de la télévision française depuis le passage à la couleur.
Mais auparavant, nos quatre finalistes, chers amis, vont prolonger leur rêve. Un rêve aux côtés de Kenji Girac qui va être virtuellement, il faut bien le dire, sur scène avec eux. C'est assez spectaculaire.
Ah bah spectaculaire, c'est peu de le dire. Ne reculant devant aucune prouesse technique, The Voice a créé un avatar de Kenji Girac, un hologramme 3D, pour lui permettre d'être sur scène aux côtés des finalistes. À 22h55, il est apparu. Je vous jure, c'est pas la pochette de Just Dance édition 2001. Hein. C'est hyper impressionnant.
Vous pouvez le voir sur europe1.fr. Ouais. Bertrand Chamerois brandit l'image de Kenji.
Vraiment hyper impressionnant si on était en 96. Dans la foulée, alors, Pixar, George Lucas et James Cameron ont annoncé leur démission. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je décris pour les auditeurs qui n'ont pas la vidéo. Globalement, on dirait un Sims première génération avec des paluches grosses comme une patte de King Kong.
Alors, c'est vrai.
Généralement, les effets spéciaux à la télé, ça vieillit assez mal. Si vous regardez Hugo Délire en 2021, c'est pas dingue. Mais c'est normal, Hugo Délire, c'était le début des années 90, depuis la technologie a fait des progrès. Là c'est différent, c'est vraiment la première fois qu'un trucage avait l'air déjà vieux en direct. Hugo Délire à côté, c'est Avatar. Bon, en tout cas, cette séquence nous a offert une bonne dose de nostalgie. Moi ça m'a rappelé toutes ces heures passées à jouer à Adibou sur mon PC, ou à Lara Croft quand elle se cognait contre les murs sur la PS1. Même le jury était mort de rire, mais blague à part, il y a beaucoup de technologie derrière tout ça.
Merci à Kenji qui a joué le jeu de la motion capture, comme on l'appelle. Il a enfilé une combinaison couverte de capteurs et nos équipes ont créé son avatar pour l'incruster sur la scène. C'était une première.
Ah non, Nico, c'était pas une première. Il y a un antécédent. Bill du Big Deal. Je suis désolé. Vincent, on l'a dit Vincent, bah oui. Alors on se moque, je taquine, mais je trouve ça hyper chouette d'avoir permis aux finalistes, grâce à la technologie, d'être avec Kenji, empêché d'être en plateau à cause du contexte sanitaire.
D'ici là, on te retrouve tout à l'heure en chair et en os avec Soul King pour ton nouveau single Bébéto.
Attendez. C'est peut-être ça le pire dans l'histoire. Il était là, Kenji, le vrai, en coulisses. Il est revenu après chanter son single en chair et en os. Donc il aurait très bien pu être physiquement sur scène avec eux, mais non. Quelqu'un, lors d'une réunion, s'est dit que ce serait bien de le laisser galérer en coulisses dans une combi en lycra pour le remplacer par un hologramme des années 90. Ah, je vous jure. Bon, allez, je vous laisse. Ça m'a donné envie de rejouer à Hugo Délire, ces bêtises.
Merci Bertrand Chamerois, le roi de la PS1. Eva, je me tourne vers vous. C'est l'heure de votre zapping du lendemain. Quel programme vous avez regardé pour nous? Et est-ce qu'il se dégage un thème?
Oui, place aux écrivains. Après Voltaire, Stéphane Bern s'intéresse à Jean de La Fontaine. Nouveau numéro de Secret d'Histoire, ponctué de quelques interventions de Fabrice Lucchini, récitant à merveille des fables de l'écrivain. Le magazine retrace la vie de La Fontaine, homme libre et libertaire. Avec sa femme, vous savez, c'était un peu chacun fait sa vie. Mais quand l'amant de madame, le capitaine Poignant, se montre un peu trop, l'entourage de La Fontaine le pousse à réparer son honneur.
On a dit à La Fontaine qu'il fallait en rendre raison, l'honneur l'exigeait. La Fontaine est allée trouver Poignant, l'a provoqué en duel. L'autre lui a dit « Mon pauvre vieux, tu sais pas tenir une épée, que va-t-il se passer ?» Il a dit « Il faut bien que je le fasse, les gens l'exigent. »
Il lui donne deux vieilles rapières et voilà, et pour aller se battre en duel. Donc ils se battent en duel, ça dure deux secondes. Puisqu'au bout d'un moment, il y en a un qui dit « Aïe !» et puis ça s'arrête immédiatement.
La Fontaine a dit « Bah ça y est, maintenant tout est clair. » Poignant a dit « Tu veux que je ne vois plus ta femme ?» La Fontaine a dit « Pas du tout. Désormais que l'honneur est sauf, vas-y. »
Et les deux amis, finalement, se seraient retrouvés ensuite pour un déjeuner.
J'adore cette histoire.
J'aime beaucoup la façon de la raconter.
Ah, c'est formidable. La Fontaine et les femmes, c'est une des thématiques largement abordées dans l'émission. À 73 ans, l'écrivain décédé sans un sou. Son œuvre connut une immense popularité bien des années après sa mort et encore aujourd'hui. Eh bien, eux auront réussi à faire connaître leur roman de leur vivant et ont la chance de vivre de l'écriture. 6 écrivains français se confient à Antoine Decaune dans le magazine Profession romancier et romancière sur Canal+. Alors leur premier roman, les rapports avec leurs éditeurs, le succès, l'inspiration sont au cœur de leur conversation, tout comme leur rituel d'écriture. Écoutez ce qu'en dit Negar Djavani, autrice notamment de Désoriental.
D'être à ma table tous les matins, quasi à la même heure, très tôt pour moi, donc, et puis écrire, de travailler ce muscle-là. D'une certaine manière, comme un sportif de haut niveau, il faut être là, même si on n'a rien à dire, il faut le faire. Même si ça ne vient pas, il faut rester. Voilà, donc c'est une discipline, et tous les jours. Et puis même quand, par exemple, c'est les vacances et il faut partir quand même une semaine décrocher, on revient, et ben, le muscle n'a pas travaillé, il est plus faible, et il faut s'y remettre, et c'est vachement plus dur en fait.
Un échange d'une heure qu'on aimerait prolonger tant ces écrivains parlent de leur métier avec passion et humour. Parce que pas question de se prendre au sérieux, même pour Nicolas Mathieu, prix Goncourt en 2018 avec son magnifique roman « Leur enfant après eux ». Je vous conseille de regarder le générique de fin, on y entend quelques bribes de conversation et une anecdote de Nicolas Mathieu.
Il est arrivé d'être, elle et moi, contactés par des lycéens qui avaient notre livre à lire et qui ne voulaient pas se le fader, ils voulaient une fiche.
Et alors ?
T'as fait l'affiche. J'ai publié son message.
Et c'est une histoire vraie. Il suffit d'aller sur son compte Instagram pour découvrir le fameux message. Une excellente émission par ailleurs qui fera peut-être naître des vocations. La Fontaine se dévoile donc dans Secret d'Histoire sur France 3 à 21h05 et 6 écrivains français se dévoilent dans Profession romancier romancière sur Canal+ à 22h40.
Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. On vous retrouve demain à 7h40
tout
avec l'ami Mathieu Béliard et puis à 10h avec nous. Dans un instant, notre invitée, la comédienne Julie Debonnard. Mais d'abord, musique, c'est Julien Doré sur Europe 1. Kiki.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
De mon cœur tu tombes. Dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde. Dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges. Dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle qu'il te faut susurrer pour te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. il arrive. Toi au moins tu sais, tout ça tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigués.
C'était Julien Doré sur Europe 1. Dans un instant, elle est déjà dans ce studio. Nous serons avec notre invitée, la comédienne Julie Debona, et on va parler de Plan B, la nouvelle série de TF1, mais aussi de son stage ici à Culture Média. J'ai toujours pas reçu le rapport de stage. Faut qu'on appelle ses parents. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Julie Debona.
Bonjour
Philippe. Elle a fait un stage, elle ne sait pas qu'il faut se mettre en face du micro. Vous êtes
comédienne. Attendez, je suis là.
Mettez votre casque comme dans Plan B, où on peut voir que vous incarnez une animatrice de radio qui a une grosse matinale. On vous a vu récemment dans Peur sur le lac, aussi le bazar de la charité, qu'on peut voir sur Netflix après avoir été lancé sur TF1. Et là, vous revenez sur TF1 à 21h avec une nouvelle série en 6 épisodes, Plan B. C'est quoi la trame de départ de Plan B ?
Alors, Plan B, c'est l'histoire de Florence Morin, donc une animatrice radio, comme vous venez de dire. Une femme accomplie qui a réussi sa vie, qui a deux beaux enfants, qui a même réussi son divorce parce que son mari habite juste à côté de chez elle et ça se passe bien.
Ouais.
Qui a un amant merveilleux de 10 ans de moins qu'elle, qui s'occupe d'une association d'abri de femmes. Voilà, c'est une femme qui semble voilà, accomplie, parfaite et tout. Et elle rentre un jour chez elle et sa fille de 16 ans s'est suicidée. Donc son monde s'écroule, elle est complètement anéantie, c'est la pire douleur au monde. Et elle rencontre une agence qui s'appelle Plan B, qui va lui permettre de retourner dans le passé pour essayer de changer les choses et essayer de sauver sa fille.
Bonne annonce.
Lou est en pleine crise d'ado. Vous aviez perçu quelque chose des intentions suicidaires de Lou ?
Lou, réveille-toi !
On n'a rien vu de ce qui est arrivé à notre fille, rien !
Vous pouvez sauver votre fille.
C'est vraiment t'es chelou.
Comment faire pour qu'elle me parle?
Mais putain, mais lâche-moi, mais putain!
Il faut pas la laisser.
Qu'est-ce qui lui arrive?
Je veux crever.
Ouvre cette porte!
Je sais ce qui va se passer.
C'est une adaptation réalisée par Christophe Campos. C'est à la base une série québécoise. Vous avez vu la série Julie Debona ? Elle vous a mis dans quel état la série originale, originelle ?
Elle m'a complètement retournée. C'est une série bouleversante et l'actrice est aussi incroyable, vraiment. Voilà, donc j'ai tout de suite eu envie de faire l'adaptation.
Vous dites que vous étiez dans un état second.
Oui, je crois que je les ai regardés. Je n'ai pas pu m'arrêter de les regarder. J'étais même sur mon iPhone à vouloir avoir la fin de l'histoire. Ouais, je crois que ça rend fou cette série.
Alors je vais vous dire, moi j'ai vu deux épisodes, j'ai pas tout vu, donc je connais pas la fin de l'histoire, mais déjà c'est très 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 prenant, on a vraiment envie de voir ce qui va se passer. Il faut faire entendre comment les scénaristes ont mis en scène l'irruption du fameux Plan B. Votre fille, vous l'avez dit, vient de se suicider, c'est peu dire que vous êtes abattu. Vous sortez de la radio, quand soudain, une femme, une inconnue de vous, vient à votre rencontre.
Madame Morin ? Madame Morin ? Eve Lalonde, j'ai été bénévole à l'abri il y a quelques années. Bonjour. Je trouve ça dégueulasse ce qu'on fait subir. Ce que j'ai à vous dire, ça peut tout changer pour vous. Mais il faut que vous m'écoutiez jusqu'au bout, c'est très important.
Merci, c'est très gentil, mais je dois y aller.
Attendez, s'il vous plaît. Je sais que j'ai l'air complètement folle d'insister comme ça. Mais je peux vraiment vous aider. Si vous le voulez, vous pouvez sauver votre fille.
Pardon ?
Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire. Mais il y a une agence qui s'appelle Plan B, qui permet de retourner dans le passé et de les changer.
Vous avez pas honte de vous foutre de ma gueule dans un moment pareil hein ?
Jamais j'ai fait un truc aussi ignoble.
Et là, on bascule dans quelque chose de dingue. Ça devrait être un polar, en fait, c'est du fantastique. Mais du fantastique, on y croit, même si quand même elle vous pique 18 000 euros sur votre carte bleue. Et c'est une série qui correspond à un fantasme qu'on a tous eu. Et si on pouvait remonter dans le temps, si on pouvait rembobiner, si on pouvait recommencer sa vie ou alors recommencer une journée différemment, vous y avez pensé évidemment vous-même.
Ah, tout à fait, je crois qu'on y pense tous.
Qu'est-ce que vous aimeriez changer ?
J'ai beaucoup réfléchi à cette question, Philippe, et aujourd'hui, j'ai envie de te dire non, j'ai pas envie de changer les choses. Aujourd'hui, je crois en la psychothérapie, c'est-à-dire les événements difficiles, douloureux de notre passé. J'ai plus envie de les analyser, de les accepter, de les comprendre et de me dire que je ne les referai plus dans le futur ou de les intégrer à ma vie. J'ai l'impression qu'on est quand même la somme de nos actes et que si je changeais quelque chose de mon passé, malheureusement, je changerais qui je suis aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre cette pilule de plan B. Julie ne la prendra pas pour changer. Mais parce que malheureusement ou heureusement, Florence Morin a vécu le pire drame au monde. Et donc, je pense que là, oui, on peut changer le suicide de sa fille.
Il y a une personne qu'on ne va pas changer, c'est Hélène Manarino. Elle arrive, c'est le portrait inattendu. Julie Debona reste avec nous. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Julie Debona, Plan B, c'est ce soir sur TF1, série en 6 épisodes. 2 épisodes ce soir, puis 2, le lundi. Je ne vous présente pas Hélène Manarino, puisqu'elle était un peu votre maîtresse de stage en quelque sorte. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Julie Debona.
Bonjour Hélène.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Quelle joie de recevoir notre ancienne stagiaire, Philippe. C'est un peu votre évaluation. Presque un an après votre stage, vous représentez dans Plan B toutes les femmes de la vie. Je vous propose de décortiquer ce matin toutes celles que vous êtes, celles que vous avez aussi été au fil du temps. Commençons par la petite fille que l'on appelait la tornade blanche. Enfant timide, généreuse, jamais sans votre bisounours, le verre avec la feuille de trèfle. Celui qui porte chance, une chance que vous avez toujours méritée. À 18 mois pourtant, vous perdez votre doudou que vous appeliez Nounou. Sur une aire d'autoroute, vous hurlez « Nounou !» Dans la voiture, vos parents enclenchent la marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence. Et hop, ce nounou a été retrouvé. Vous aimiez regarder les mystérieuses cités d'or avec votre papa. Vous aimiez être Zia, votre père Esteban. Et vous voliez dans l'appartement. Et puis, il y a eu les Disney. D'ailleurs, vous avez toujours préféré les Disney aux contes d'origine. Car dans les Disney, ça se finit toujours bien. Julie Debona, éternelle optimiste, petite fille souriante, timide, généreuse, l'âme d'une artiste déjà. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'âge de 2 ans et demi, en regardant le Collard au chaud, vous imitiez les danseuses en disant « Quand je serai grande, je serai Coco Girl ».
Non. Oui. Pardon. À 2 ans, c'est...
Deux ans et demi.
Un peu précoce.
Vous auriez pu être économiste, puisqu'à l'âge de 4 ans, tous les jours devant le journal de 13 heures, vous posiez systématiquement cette question : est-ce que le dollar monte ?
Là aussi, c'est
priorité
précoce.
À 4 ans. Collectionneuse de mini-bouteilles de parfum, vous avez très vite créé un binôme avec celle qui deviendra votre meilleur allié, surtout pour le jeu du tabou. Vous finissiez les phrases de l'une et de l'autre. Je parle de votre sœur. Vous aimiez gratter sous ses ongles en lui tenant la main et surtout courir dans le salon avec elle sur cette chanson.
Printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nu dans un lac du Connemara.
Eh oui, Julie Debona, la grande sœur parfaite sur du Michel Sardou. Passons à présent à Julie Debona, l'ado, au milieu de votre poster de Jim Morrison et de l'affiche taille réelle du film Léon. Dans votre chambre, ado sage, stratège, surtout avec le jeu du tarot, accompagné de vos cousins. Normal, car celui qui perdait devait faire la vaisselle. Des cousins avec qui vous avez fait le mur pendant les vacances, surtout en passant par la chambre de votre sœur, vous étiez chez votre grand-mère. Votre sœur vous réceptionnait et elle vérifiait votre haleine quand vous rentriez avant d'aller vous coucher. Julie Debona, femme amoureuse, surtout de Sam, votre amour de vacances à Saint-Cyprien, chez votre grand-mère, que votre copine Mathilde vous a piqué.
Oh putain, tout le monde est au courant maintenant.
Oh là là. Ouais, attends, ça y est. Il y a ça dans la fiction. Il y a une fille qui pique un mec à l'autre.
Oui. Et votre grand-mère vous a dit, ne te laisse pas faire, Julie, garde la tête haute. Votre grand-mère, cette femme forte qui vous a appris l'essentiel, rester digne, droite, ne pas baisser les bras et avancer. Alors Julie, vous êtes aussi l'amie qu'on a envie d'avoir, gaffeuse parfois. Vous avez été capable de prendre le périph' à Barcelone en première à fond, sans jamais changer de vitesse, tout en doublant une voiture.
Ouais.
Chanter Singing in the Rain dans la rue quand il pleut.
In the rain.
Et de tomber devant toute la terrasse. Une amie à l'écoute, organisée, fan de Buffy contre les vampires. Parfois angoissée aussi, surtout avec le nom de votre dernier groupe WhatsApp. Question vaccination. Une amie qui chante à fond Je suis malade, version Lara Fabian avec sa meilleure copine. Une amie qui prend soin des autres en cuisine. Cuisinant ses légumes verts, mais surtout une amie devenue Tata Juju pour la fille de sa meilleure amie Maë. Maë qui a quelque chose à vous dire.
Oh.
a toujours été là pour moi. Je t'en suis très reconnaissante. On a fait plein de choses ensemble. Pour moi, t'es pas que la copine de maman, t'es aussi un peu ma mère de cœur. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je t'embrasse tout mon cœur. Je t'aime fort. Bisous.
Voilà, tata,
Julie
Debona, une femme moderne, bosseuse. Vous créez une playlist pour chaque personnage. Vous aimez les choses simples, boire votre riz coré le matin, rituel indispensable. Quand vous n'en avez pas sur un tournage à l'étranger, votre compagnon vous envoie un UPS.
Un UPS de riz coré.
De riz coré. Alors Julie, on va terminer avec un clin d'œil sur l'un des rôles les plus sacrés, votre rôle de maman, marqué par cette chanson que vous chantez systématiquement à votre fils.
Les escaliers.
Chante pas comme ça. Hein.
La complainte de la butte. Alors Julie Debona, toutes ces femmes que vous portez depuis toujours font de vous, et je pèse mes mots, une grande actrice devenue incontournable, mais surtout pour le public et pour nous. Vous serez toujours un plan A.
Oh.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Oh là là, vous êtes la petite larmouille. Hein, ça vous a...
Oui, mais c'est beau, merci. Hein. Et c'était drôle en plus.
Merci Julie. Et comment ça s'est fini avec vos copines alors? Parce que c'est tragique dans la fiction, entre les deux ados.
Attends, dans la vraie vie ou dans la fiction?
Dans la vraie vie, comment ça s'est fini? Dans
mais
la
c'était
fiction,
tragique, c'est le drame de ma vie. T'imagines?
D'abord, on ne me tutoie pas. Et deuxièmement, je viens d'apprendre ce que vous pourriez changer si on devait revenir en arrière et
non,
faire un plan B.
Non, ça m'a construite en tant que femme. C'est-à-dire que ma meilleure amie de l'époque embrasse mon amoureux juste devant moi.
Waouh.
Bah c'est à 15 ans, franchement, ça t'anéantit.
J'ai vécu la même chose, je comprends.
Ça anéantit, ça anéantit le cœur d'une femme.
Vous savez quoi? C'est du Romer. Culture Média continue. Il y a Ondelat qui se prépare. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Julie Debona qui incarne Plan B, la nouvelle série de TF1. Deux épisodes ce soir et ensuite deux, c'est le lundi. Que pourrait-on faire si on pouvait revenir en arrière? Je voudrais qu'on parte avec vous, Julie Debona, en Savoie et en Haute-Savoie. Vous avez tourné dans Peur sur le lac, également Le Tueur du lac, qui se passait du côté du lac d'Annecy. Vous incarniez la commissaire de police Lee Stoker. Vous êtes cliente de ces histoires policières terribles?
En fait, ça me fait extrêmement peur. J'aime pas du tout ça. Donc, c'est pour ça peut-être que j'étais la bonne cliente pour jouer ça, mais j'avais la peur au ventre, moi.
J'aime bien. Au moment où vous avez dit ça me fait peur, vous avez regardé Christophe Ondelat dans ce studio. Bonjour, Christophe.
Bonjour, bonjour.
Avec vous, Christophe, on va rester dans ce coin de France. C'est votre recommandation, puisque c'est là-bas que Nordal Lelandais a sévi plusieurs fois. Et il est encore suspecté dans plusieurs disparitions mystérieuses autour du lac d'Annecy. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler du livre d'Alain Jakubowicz, Soit je gagne, soit je perds, qui était paru en 2019 chez Plon. Pourquoi on en parle? C'est un livre ancien, mais il est d'actualité.
Il est totalement d'actualité, puisque donc Alain Jakubowicz a défendu Nordal Lelandais dans le procès sur le meurtre du caporal Noyé, qu'il a pris une volée de bois vert, comme il en prend depuis qu'il a accepté de défendre Nordal Lelandais. Donc ce que je veux expliquer d'abord, c'est qui est ce type, à partir de ce bouquin que je conseille à tous ceux qui veulent comprendre ce qu'est le métier d'avocat. Ce type a 68 balais, c'est-à-dire que ce n'est pas un perdreau de l'année. Il ne cherche pas à se faire de la publicité. Alain Jakubowicz. Il a une aura particulière parce qu'il a été l'avocat des parties civiles, du procès Barbie, du procès Touvier, du procès Papon, et que par ailleurs il a été pendant des décennies le président de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est un avocat d'affaires. Donc c'est doublement un méchant puisqu'il est riche. Il a choisi de cette part du métier qui permet de s'enrichir pas mal, mais tous les ans, il prend une ou deux affaires criminelles. Et moi, je l'ai vu plaider dans un dossier criminel absolument ordinaire devant la cour d'assises d'appel de Grenoble. C'est un avocat extraordinaire. C'est-à-dire, si on peut l'avoir comme avocat, il va se défoncer pour vous, jusqu'à n'en pas dormir la nuit qui précède sa plaidoirie, jusqu'à plaider, jusqu'à pleurer. Voilà, c'est un avocat extraordinaire. Et donc, Lelandais...
Alors, je vous interromps, Christophe, vous dites c'est un avocat d'affaires. Il prend une affaire ou deux par an. Il l'a prise comment, cette affaire? C'est lui qui a sollicité Nordal Lelandais? Comment ça s'est fait?
Ben, c'est bêtement, vous savez, c'est des clients qui disent à d'anciens clients, dont bref, il a un ancien client qui vient d'acquitter devant la cour d'assises et qui l'appelle un jour, qui lui dit « Écoute, je suis chez une dame, son fils est accusé du meurtre d'une petite fille. Est-ce que tu veux bien la prendre au téléphone? Elle voudrait que je lui ai conseillé de te prendre comme avocat. » Et c'est comme ça que ça se passe. Donc ensuite, il raconte très bien dans ce livre, et c'est ça que je trouve fascinant, comment cette décision, il ne peut pas la prendre seul, parce qu'il a un très très gros cabinet de dizaines de collaborateurs, et il sent bien que ça va amener une mauvaise publicité.
Parce qu'il faut dire, c'est le meurtre de la petite Maïlys qui est absolument effroyable, voilà, et qui a retourné l'opinion française.
Voilà.
Et donc ça peut causer préjudice, sinon à lui-même, en plus à son cabinet.
À la totalité du cabinet. Donc il réunit ses collaborateurs, et dans le bouquin, il a cette honnêteté de dire qu'en fait, eux-mêmes ont déjà compris que lui avait décidé de le faire, et qu'il va falloir le suivre. Mais malgré tout, par élégance, il leur demande d'abord l'autorisation. Et alors ensuite, ce qu'il décrit très très bien, c'est qu'on croit que les avocats sont cyniques quand ils prennent un dossier. Lui ne l'est pas. Certains le sont. Et ma foi, ils ont le droit de l'être, mais lui ne l'est pas. Et notamment, il dit « Je prendrai son dossier s'il accepte de dire où est le corps de Maïlys. Si il ne veut pas dire où est le corps, alors je m'en irai. » Tout en sachant qu'un piège s'est ouvert, parce que quitter un client pour un avocat, c'est l'enfoncer. Mmh. Et c'est à peu près l'inverse de ce qu'est la déontologie de ce métier-là. Et par ailleurs, il a d'autres états d'âme. Il dit « Je ne me sens pas capable de plaider l'acquittement d'un homme, au cas où il dirait « c'est pas moi », de plaider l'acquittement d'un homme que je sais coupable. » Pour lui, ça ne sera pas possible. Il y a beaucoup d'avocats qui, Dupond-Moretti, par exemple, il a défendu plein de coupables. Il en a fait même peut-être sans doute acquitter quelques-uns. Il n'avait pas besoin de croire qu'ils étaient innocents pour les défendre. Il raconte très bien aussi comment il est amené à tutoyer le Landais et avoir à son égard des gestes d'affection. Et quand il récupère l'affaire du caporal noyé, qui est une espèce de truc qui lui tombe dessus, alors que déjà c'était un dossier très difficile pour lui, et là encore, son but, il n'en a qu'un, c'est de l'amener à avouer pour que les parties civiles, les parents, la famille puissent encaisser ça.
Il a avoué sans avouer tout en avouant. Il a dit que c'est une bagarre qui avait mal tourné, il n'a pas reconnu la préméditation. Vous dites que ce livre est sanglant avec la presse ?
Ah oui, c'est assassin avec la presse à juste titre, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une scène incroyable qu'il raconte dans le bouquin, qui est que donc dans la seconde où on sait que le Landais a été filmé par une caméra vidéo du village avec une tache blanche à ses côtés, vu par les chaînes d'information continue, ça devient une petite fille dans une robe blanche. Et lui dit, moi je l'ai vu la vidéo, aucun d'entre eux ne l'a vu. Et je défie à quiconque de voir une petite fille et encore moins une robe blanche. Il y a juste une tache blanche. Et il y a une scène qui le révolte, c'est que BFM TV reconstitue cette scène, c'est-à-dire fabrique une fausse image de la caméra vidéo montrant la tache blanche qu'ils n'ont pas vue à côté de Nordal Lelandais dans la voiture. Et ça le fout en rogne. Et la deuxième chose que je partage totalement avec lui, la deuxième révolte contre la presse, et c'est d'ailleurs intéressant parce que vous-même vous l'avez reprise, c'est que dans la seconde où on sait qu'il a tué cette petite fille, ok, on se dit dès le départ c'est un tueur pédophile, ok, il tue un caporal, on dit tiens c'est bizarre, donc c'est un tueur en série. Est-ce que Jakubowicz dit, c'est que c'est honteux de tirer ce raisonnement. Il faut être, d'abord il faut trois crimes pour qu'il soit tueur en série, et donc il dit en gros sur les plateaux de BFM TV, ce que succède des spécialistes qui ne connaissent pas le dossier, qui ne connaissent pas le bonhomme, mais qui en parlent quand même.
Christophe, dites redonnez le titre du livre.
Le livre s'appelle « Soit je gagne, soit j'apprends ». On le trouve sur toutes les plateformes de téléchargement.
Merci beaucoup, Christophe. Juste un mot, votre récit du jour tout à l'heure à 14h sur
Europe. La tuerie de Valensol, ça se passe dans les Alpes de Haute-Provence. c'est une histoire du début du siècle et ça va être terrible.
Il retrouve l'accent. Merci beaucoup, c'est dans On la raconte. Dans un instant, notre deuxième indispensable, on va faire péter les bouchons avec Olivier Pouls, mais d'abord Silly Boy Blue, toujours en compagnie de Julie Debonnat, toujours sur Europe 1, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la comédienne Julie Debonnat, vous aimez bien le bon vin, Julie Debonnat ?
Vraiment oui.
Avec que modération. Le bon vin maintenant. Je vais le dire tout le temps, avec modération évidemment. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour.
Les terrasses ouvrent,
oui.
Mais également les bouteilles. Et Bordeaux, c'est pour ça que vous êtes là, met en vente depuis quelques jours son millésime 2020, une vente que l'on dit en primeur. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, Bordeaux a une particularité, c'est que depuis de nombreuses années déjà, pour des raisons de trésorerie historiquement, on met en vente un vin qui n'a pas encore été mis en bouteille. Donc on l'appelle en primeur, c'est-à-dire quelques mois après les vendanges. Les dernières vendanges, c'est en septembre 2020.
Ouais.
Donc là, les vins sont toujours en cours d'élevage. Ils arrivent sur le marché, vous pouvez les acheter et on vous donnera les bouteilles d'ici un an.
Alors l'intérêt... Attendez, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il vaut. C'est comme si on achetait une voiture sans pouvoir l'essayer.
Ben, alors c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui ont le dur métier de partir à Bordeaux, d'aller goûter ces vins et de faire les recommandations sur ce que vous devez ou pas acheter. Et l'intérêt, c'est que normalement, ben, vous les payez un petit peu moins cher.
Et oui, parce qu'on peut vous entendre dans Historiquement que Vôtre, ce sera tout à l'heure, mais vous êtes également dégustateur à la Revue du Vin de France.
Ouais, et on sort un numéro spécial consacré d'ailleurs à ces Bordeaux 2020.
Qui répond à cette question, que vaut ce millésime ?
Eh bien, c'est un bon millésime, mais vous allez me dire, oui, mais il n'y a plus que des bons millésimes.
Ouais. C'est l'école des fans un peu, on a l'impression que tout le monde a gagné.
La réalité est quand même assez proche de ça, c'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître que l'évolution climatique ou le réchauffement climatique, appelez ça comme vous voulez, est plutôt positif pour la qualité du vin. Alors, ça a une conséquence, c'est que les degrés d'alcool ont plutôt tendance à monter.
Oui,
ça,
il y a de plus en plus de sucre.
Il y a de plus en plus de sucre, donc de plus en plus d'alcool dans le vin. Mais on fait des vins qui sont meilleurs aussi, parce qu'ils sont plus mûrs. Et que pour faire du bon vin, ben, il faut du raisin bien mûr. Et avec des étés tels qu'on les connaît, tel qu'on l'a encore connu en 2020, ben on a des raisins très mûrs. Alors, c'est un millésime qui est ce que je vais appeler d'un profil assez classique, assez frais, à l'opposition de millésimes qui sont des millésimes très chauds, qui donnent des vins plus capiteux, plus riches. Et là, on est sur des vins qui ont quand même un bel équilibre de fraîcheur et une acidité intéressante qui a été préservée.
Est-ce que les prix montent en même temps que la rareté ?
Alors, pas tellement, parce que d'abord le contexte n'est pas non plus aujourd'hui à des augmentations de prix. La pandémie et les conséquences mondiales se sont évidemment aussi fait ressentir sur l'industrie ou sur le commerce du vin. Donc il n'y a pas aujourd'hui les leviers pour faire monter les prix.
D'un mot, ils n'ont pas été touchés par le gel comme certaines régions de Bourgogne,
alors,
par exemple.
Si,
ou est-ce qu'une partie de la vigne a été détruite?
Alors si, bien sûr, malheureusement. Mais ça, c'est la conséquence sur le prochain millésime qui va arriver en 2021.
Oui. Pardon,
donc le 2020, lui, il n'est pas impacté. Et on peut dire qu'il y a des quantités à peu près convenables et en tout cas conformes. Donc il n'y a pas aujourd'hui un contexte qui permette d'augmenter les prix. Mais ce que je voudrais dire, c'est que puisqu'on parle de Bordeaux, il y a quand même une image de Bordeaux de vin souvent très cher. Alors c'est vrai qu'il y a 30 ou 40 marques qui sont vendues à des prix complètement stratosphériques. On parle parfois de plusieurs centaines d'euros la bouteille. Mais il y a aussi derrière toute une nuée, toute une forêt de petits vins moins prestigieux,
oui,
entre guillemets, à des prix extrêmement compétitifs, entre 5 et 20 euros la bouteille, et avec des niveaux de qualité qui aussi ont beaucoup, beaucoup progressé.
Oui, mais dans cette jungle, justement, comment s'y retrouver à part acheter votre Revue? Est-ce que vous avez des recommandations à nous faire pour Julie de Bonnat et moi-même?
Alors, je crois que Julie, elle aime plutôt les vins de Bourgogne et de la Vallée du Rhône et des Côtes-Rôties.
Un petit peu moins tannique pour moi.
Ouais, alors c'est vrai que ces vins de Bordeaux ont cette image de vins tanniques qu'il faut faire vieillir un peu pour que ça s'assouplisse et qu'on puisse vraiment prendre du plaisir. La vinification contemporaine fait que les vins sont plus abordables maintenant. Alors, c'est pas facile parce que, bien évidemment, une appellation n'est pas une garantie de qualité. On parlait tout à l'heure de Pommard, par exemple, mais des Pommard, il y en a des très bons, puis il y en a des pas bons du tout.
2015, donc, je crois qu'il est bon. Hein.
Bah, 2015, c'est un très bon millésime.
Vu, je m'y connais.
Bah, voilà. Bien vu, parce qu'à boire maintenant, ça doit commencer franchement à être pas mal.
Pour tout dire, il ne reste plus.
Vous en avez encore? Bah, on va prendre
rendez-vous. On va essayer d'ouvrir
ce soir. Ouais. On va prendre rendez-vous pour le goûter.
Les prix, en gros, 5-10 euros, on peut déjà être content.
Entre 5 et 10 euros, et de 10 à 15, vous pouvez vraiment aujourd'hui avoir des Bordeaux qui sont capables de durer dans le temps, c'est-à-dire des vins qui vont vieillir 10, 15 ou 20 ans, et qui sont d'un niveau qualitatif largement au regard du prix que vous allez mettre dedans.
Merci Olivier Pouls. On pourra lire votre prose dans la Revue du Vin de France et on pourra vous entendre samedi dans la table des bons vivants sur Europe 1 avec l'ami Laurent Mariotte. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. Dernière partie de Culture Média, toujours en compagnie de Julie de Bonnat qui allait chercher son tire-bouchon. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de la comédienne Julie de Bonnat, qui a le premier rôle dans Plan B. Je dis le premier rôle parce qu'il y a beaucoup d'autres rôles avec vous, avec un casting de première classe. Il y a Cécile Rébois, il y a Tom Leb, Plus Beau que Jamais, Claire Borotra, Andréa Ferréol, Firmin Richard, et celle qui joue votre fille, Kim Higelin. Higelin comme Jacques Higelin?
Tout à fait, c'est sa petite fille.
Et alors, elle est quand même assez spectaculaire, elle aussi. Comment vous avez abordé le rôle et votre relation avec elle? Parce qu'elle joue votre fille et tout repose là-dessus. C'est ce binôme qui tend toute la fiction.
Moi, déjà, je tiens à dire qu'on a on a une grande chance de l'avoir rencontrée parce que c'est grâce à elle que la série est de grande qualité, parce que tout repose sur la relation mère-fille. Donc c'est vrai que tout reposait aussi sur les épaules de celle qui allait jouer Lou, et Kim est amplement à la hauteur. C'est une vraie révélation pour moi, c'est une pépite, c'est vraiment un talent brut, et je pense qu'elle va aller très très loin. Et j'ai eu un coup de cœur avec elle, une grande rencontre. En plus, on a un petit truc en commun, on est toutes les deux carteronnes vietnamiennes, nos grand-mères sont vietnamiennes. Donc je trouve qu'il y a une similitude physique qui est assez impressionnante. Et émotionnellement, on s'est connecté dès le casting. On s'est rencontrés, on s'est regardés et c'était ma fille. C'était assez impressionnant. Et après, sur le tournage, on a créé un lien dément. En plus, elle a accepté de venir travailler avec ma coach pour qu'on fasse des impros. Voilà, on s'est embrouillé, on s'est engueulé parce qu'il fallait que je sois sa mère et qu'elle soit ado rebelle.
Ouais.
Il fallait, moi j'ai un petit 2 ans et demi, je savais pas du tout ce que c'était que la relation avec une ado. Et j'ai dit Kim, viens m'aider parce qu'il faut que tu m'embrouilles, il faut que tu me parles mal. Et moi je pleurais quand elle me parlait mal et qu'elle me disait non mais maman t'es insupportable, elle me dit casse-toi et tout. J'ai dit pardon, pourquoi tu me parles comme ça? Et j'avais envie de pleurer. Et donc il fallait que j'ai le cœur accroché d'une mère d'ado qui lui dise alors tu vas dans ta chambre tout de suite et tu ne me parles pas comme ça. Et je savais pas trouver cette voix d'autorité. Et donc on a fait beaucoup d'impro jusqu'à ce que je la trouve et c'était drôle, elle se marrait quand elle me voyait vraiment mais faiblir, tu vois, face à elle. Donc on a créé une vraie relation et après quand il y avait des très belles scènes d'émotion, on se regardait et on partait loin toutes les deux. Ah, c'était un beau voyage avec ma petite Kim.
Julie de Bonnat, vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup ses rôles. Vous l'aviez raconté ici pour un rôle de prostituée. C'était dans la Smala sans mène, ou Smala sans mêle, j'y arrive. Vous étiez exercé à marcher dans la rue avec des talons et une jupe courte. Et cette fois-ci, vous êtes également très impliqué puisque vous avez fait un stage. Parce que vous incarnez une animatrice radio et vous avez fait un stage à Culture Média pendant une semaine. Avec le recul, comment s'est passé ce stage et qui avez-vous appris?
Alors, où est-ce que j'ai fait ce stage déjà? J'ai quémandé un stage à Philippe Vandel. Oui, c'est vrai. Non, non. C'était très amusant et puis c'était essentiel pour moi. Il fallait que je rentre dans la peau de cette animatrice. Qu'est-ce que c'est qu'être une animatrice radio? Quelle est la responsabilité, la charge, l'adrénaline, la passion? Et j'ai appris déjà qu'il y avait beaucoup d'adrénaline. Il y avait un super pouvoir, j'avais l'impression. C'est-à-dire qu'on avait l'info avant tout le monde. On savait ce qu'on allait dire. L'invité ne sait pas ce qu'on va dire. On divulgue l'info aux spectateurs. On rentre directement dans leur foyer, ils sont en train de boire un café, d'être sous la douche et on leur parle. Ouais. Je trouve ça assez fascinant.
Et à l'image, vous avez des feuilles partout.
Oui, alors j'ai fait comme Philippe Vandel, exactement. J'ai pris exemple sur vous. C'est-à-dire, j'ai pris toutes mes petites filles, je regardais pas et je regardais mon réalisateur, je lui parlais comme ça. Et hop, un peu speed. Et j'ai. Ouais, merci Philippe pour ce conseil incroyable.
Et alors, vous nous avez raconté que vous créez des playlists pour chacun de vos personnages. Ouais. C'est quoi la playlist de Florence Morin pour Plan B ce soir sur TF1?
Alors, celle, la musique que j'ai écoutée en boucle sur le tournage pour Florence Morin, c'est Blood Flow, Grand Brothers. Elle m'a fait voyager. En fait, j'ai l'impression que c'est un voyage interdimensionnel. Parce qu'en fait, comme elle revient en arrière dans le temps sans cesse pour essayer de sauver sa fille, cette musique, elle est en boucle. Et elle se finit jamais. Et je me dis, est-ce que je vais réussir à la sauver? Ça me crée vraiment l'émotion du personnage.
Deuxième titre.
Attends, il faut que je l'ai...
Vous avez oublié ce que vous nous avez dit. Elle nous a envoyé, on a préparé la séquence, elle a oublié elle-même les musiques.
Human.
Alors Human, c'est quoi?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rage dans cette musique. Et une impuissance. Donc en fait, c'est vraiment l'impuissance du personnage que j'avais envie de ressentir.
Et la troisième, évidemment.
Eh bien, ça parle de l'adolescence. Lâche-moi de Clarica.
Allez, lâche-moi, allez, va-t'en, va mon amour.
C'est l'adolescence, c'est l'enfant qui s'en va du foyer. Il faut accepter qu'elle grandisse, qu'elle ne soit pas comme moi. Voilà, bah c'est ce qui m'a évoqué Florence Morin et la relation avec sa fille.
Merci. Beaucoup d'actu qui vont arriver encore pour vous. On va dire un mot des combattantes, parce que vous retrouvez la bande du Bazar de la Charité.
Et on n'a pas parlé de Bruno Debrandt. Tu n'as pas cité Bruno Debrandt qui joue mon ex, donc je tenais à le dire.
Parce que
Christophe Campos, le réalisateur.
Parce que je savais que vous alliez le citer. Un mot des combattantes, c'est l'équipe des Bazar de la Charité qui va arriver bientôt sur TF1, c'est ça?
Tout à fait, avec Audrey Fleurot, Camille Lou, et on a Sophia Issaidi qui nous rejoint. Et c'est réalisé par Alexandre Laurent, comme le Bazar de la Charité et le Secret d'Élise.
Merci beaucoup Julie Debonnat. Mais l'actu immédiate, c'est ce soir Plan B, ce soir sur TF1, mini-série de 6 épisodes de 52 minutes. Un grand, grand, grand plaisir d'avoir reçu...
Et vous
reçu...
Philippe, qu'est-ce que vous feriez si vous revenez en arrière? Qu'est-ce que vous changeriez?
D'être à l'heure. On vient de me le souffler à l'instant. Je vais citer tout le monde. C'est Antoine Genton qui vient de me le citer. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'heure. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on revient demain à 9h pour Culture Média avec Marc Lavoine pour Mon Cartable. Quelle histoire, ouvrage collectif rempli de souvenirs d'école au profit de l'association Mon Cartable Connecté. Et puis, on va revenir sur le succès de Marié au premier regard. C'est la saison 5 et il y a deux personnes. On ne fait pas cette tête.
Non, c'est Plan B ce soir.
Ils ont tenté l'expérience. Mais non, c'est demain Marié au premier regard. Ce soir, c'est Plan B. Demain, c'est Marié au premier regard. À demain, bonne journée, salut.
Culture Média.